Ça marche. Alors oui, je précise qu'il n'y a aucun lien avec ce qui a été dit en introduction. C'est super. Alors avant de parler de moi, j'aimerais d'abord te remercier. Bon, voilà, ben... tu vois, comme quoi. Ça, c'est sympa.
Ok, non, pas... très bien, merci.
Ouais, pour l'invitation dans vos studios.
C'est avec plaisir.
Voilà, comme ça, il faut le dire. Et permettre à une jeune entreprise comme la mienne d'avoir un peu de temps pour s'exprimer et sur les projets que j'ai, ça fait du bien. Ça fait une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène. Ça motive. Donc pour ça, je voulais te remercier. Toi et l'équipe, évidemment. Voilà, fermez la parenthèse. Donc ça, c'est fait.
Eh bien, c'est avec plaisir. Maintenant, nous t'écoutons.
Alors voilà, donc Val-de-Loire Écotourisme, je vais peut-être préciser le cadre pour que tous tes auditeurs comprennent de quoi on parle. Donc l'écotourisme, en fait, c'est une notion qui voit le jour, en tout cas dans son concept, dans les années 70, en Amérique du Sud. Et c'est parti à la base des biologistes au fait au Costa Rica, entre autres, même si on trouve des notions d'écotourisme dans la littérature à partir des années 50-60. Mais en tout cas, le concept est né tel qu'on essaye de le développer aujourd'hui, à ce moment-là, dans les années 70. Paradoxalement, mais quand on y réfléchit, c'est assez logique, à l'époque où le tourisme de masse se développe vraiment. Vraiment, avec l'aérien et tout ce qu'on connaît. Donc on est vraiment dans ce contre-coup du tourisme qui se développe à ce moment-là. Et à la base, les revenus donc générés par cette forme de tourisme durable servaient à financer des programmes de conservation d'espèces. Donc on était vraiment sur quelque chose de très concret en faveur du vivant. Voilà, c'était vraiment ça, la base.
Et aujourd'hui, ça a complètement évolué aussi, cette définition de l'écotourisme. Parce qu'on est d'accord, c'est faire du tourisme de façon durable, en respectant la nature, etc. Mais comme tu l'as dit, pour permettre aussi de donner des recettes dans la préservation de l'environnement.
Exactement. Donc ça, c'était évidemment le concept d'écotourisme. Peut pas être appliqué de la même manière dans un pays d'Amérique du Sud avec une biodiversité qui est complètement différente de chez nous, au Val-de-Loire. On a bien compris. Voilà. Mais même aux Pyrénées, où ils le travaillent d'une autre manière, dans les Cévennes, je pense aussi, où ils sont assez en avance, au Canada. Voilà. Donc chacun va développer un peu ce concept avec des bases, en prenant des bases quand même de ce mouvement, et les développer en fonction du contexte territorial dans lequel ils se trouvent, ce qui est le cas du Val-de-Loire, où, du coup, j'en viens à l'association. Le réseau Val-de-Loire Écotourisme est fondé sur trois piliers qui sont, pour résumer, nature, culture, terroir. Voilà. Et notre action, c'est d'éduquer, de sensibiliser à l'environnement. Et le terme éduquer n'est pas anodin parce qu'il y a une vraie part éducative dans cette histoire. Voilà, à travers des sorties, à pied, à vélo, voire en bateau, tout en mettant en avant le patrimoine culturel de la région. Donc ça peut être le bâti monumental, bon, qu'on connaît bien, mais c'est vrai que on va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle le patrimoine oublié, voilà, ou le petit patrimoine, même si j'aime pas vraiment ce terme, parce qu'il peut être péjoratif, mais donc on a cette dimension culturelle qui est très forte. Et le troisième pilier qui est le terroir, qui là met en valeur, en relation, en lien des acteurs du territoire, à travers la gastronomie par exemple, mais aussi l'artisanat. Voilà, donc ces trois piliers sont liés, évidemment, indissociables. Mais en tout cas, c'est notre socle. Voilà. Alors on s'est inspiré des définitions pures de l'écotourisme. Il en existe plusieurs. Il n'y a pas une définition officielle. Chaque organisme, l'OMT, va avoir sa définition. L'UICN, qui est un organisme plutôt naturaliste, va avoir sa définition, etc. Mais il y a des points clés qui reviennent toujours. Et nous, on s'est basé sur ça. Voilà, c'est clair.
Oui, ouais. C'est clair, très bien, c'est exhaustif et clair. Est-ce que tu peux aussi parler de toi parce que tu es éco-guide et c'est pas ouais. évidemment c'est pas courant d'avoir et de rencontrer des gens qui sont éco-guides. Dis-nous déjà en quoi ça consiste réellement d'être éco-guide et aussi nous parler peut-être de la formation parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y a qu'une seule formation finalement d'éco-guide en France.
Ouais, alors. Éco-guide, il n'y a pas vraiment de formation d'éco-guide. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est moi j'ai fait la licence professionnelle qui s'appelle concepteur et accompagnateur en écotourisme, qui est à Saumur, alors qui vient de changer de nom cette année. Ça a été refondu, donc c'est un petit peu différent. Ils sont réorientés sur d'autres thématiques. Donc bon, on verra plus de concepteurs et accompagnateurs en écotourisme sortir, en tout cas dans les années qui viennent. Et sur une carte de visite, hein, ce que je te disais tout à l'heure, concepteur oui, et accompagnateur, ouais. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors, éco-guide résume bien parce que on n'est pas réducteur. Ce qui était le cas avec le terme de guide nature ou guide naturaliste, bon, on peut s'appeler comme on veut, mais là, c'est assez réducteur. Parce que nous, je dis nous parce qu'on est plusieurs dans l'association, j'y reviendrai, on travaille vraiment sur les trois piliers hein, qui sont nature, culture, terroir. Donc on n'est vraiment pas que sur le champ de la nature, avec un petit N évidemment, mais on est sur le champ global, voilà, qui englobe la nature et la culture. Donc c'est pour ça que EcoGuide permettait de ne pas se réduire finalement.
De rassembler un peu tous les termes. Ouais, c'est ce qu'on se disait finalement, c'est un fourre-tout un peu le EcoGuide, ouais. Mais qui ça, rassemble bien toutes les...
Ouais, et puis ça parle quoi, parce ouais. que voilà, tout de suite, voilà.
Alors sur le terrain concrètement, est-ce que tu ouais. peux nous expliquer en quoi ça consiste d'être EcoGuide,
ouais.
ton métier finalement et ce que vous faites au sein du réseau?
Alors ouais, là il y a deux choses. Alors mon métier... je vais en décevoir plus d'un, c'est pas d'être dehors tout le temps.
Ok, bah c'est bien de le ouais, préciser
ça,
tout
ça
de
marche
suite.
Pas.
Hein,
non, évidemment. Puis même s'il y en a qui écoutent et qui se disent tiens, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en amont, de recherche, de repérage, etc. Et l'objectif, c'est de proposer des sorties, évidemment, sur plusieurs temps, donc soit à la demi-journée, soit à la journée, soit sur plusieurs jours, pour accompagner des groupes, des petits groupes, parce qu'on est en écotourisme, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais mm-hmm. c'est une des notions clés de l'écotourisme, c'est qu'on est vraiment sur des petits groupes, jusqu'à 12 personnes maximum. Donc voilà. Et on accompagne ces personnes dans la découverte réelle et concrète du patrimoine naturel et culturel du Val-de-Loire, entre autres. Donc pour être peut-être plus concret, si tu veux une sortie type, par exemple, voilà.
Oui.
On y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que t'as mon agenda, enfin on en reparlera.
Effectivement, on en reparlera.
Ouais, une sortie type, ça va être on se retrouve en forêt, par exemple. Voilà. Moi j'annonce une thématique, je dis tiens, bah, le 12, je propose une demi-journée à la découverte de la forêt de Chinon. Voilà, c'est un peu global. Et pendant cette demi-journée, on part à pied, on fait très peu de kilomètres. L'objectif, c'est vraiment pas la marche. Et quand on est à vélo, c'est pareil, l'objectif n'est pas le vélo. C'est un moyen de déplacement pour découvrir. C'est important. Mmh. Parce que du coup, ça veut dire que mes sorties sont quand même accessibles à des gens qui sont pas sportifs du tout, et j'ai souvent la question oh, on marche beaucoup et ça fait peur aux gens, et non, on peut très bien faire une demi-journée en faisant un kilomètre et demi quoi. C'est pas l'objet. Par contre, on va vraiment s'intéresser à ce qui se passe. Donc on va s'intéresser aux plantes, voilà, moi je vais vous expliquer comment une plante fonctionne, pourquoi elles sont là, on va s'intéresser à la géomorphologie, donc le relief du territoire, qui a une explication, qui a une histoire. On va s'intéresser aussi, au-delà de tout ça, au mythe qu'il peut y avoir, surtout en forêt, c'est génial, parce que là, il y a un terrain de jeu un peu sympa. Et ouais, ça remonte tout de suite aux origines de l'homme, hein. Ouais, ouais. Donc on s'amuse, entre guillemets, mais ça permet aussi d'avoir une réflexion sur cet espace, sur l'usage qu'on en fait, nous, aujourd'hui, qui s'inscrit complètement dans notre culture, finalement, et dont le but premier, c'est de faire du bois. Hein. Vous allez en forêt domaniale, oui. Le but c'est de faire du bois. Oui, donc, oui. Déjà, ça change tout. Voilà, donc j'essaye d'apporter des connaissances, évidemment, parce qu'on est obligé de passer par de l'apport de connaissances, mais c'est accessible, c'est vulgarisé. Ça veut dire qu'on utilise des mots simples, on essaye de faire comprendre et de faire vivre à travers des techniques que moi j'ai eues pendant mes formations, que j'ai eu la chance d'avoir, à travers des techniques qui passent par des outils, tout bêtement, des petits outils que j'ai dans le sac à dos, et puis on va partir sur du sensoriel pour amener à quelque chose d'autre. Voilà. Pour moi, c'est concret, hein. Mais vu ta tête...
Ah non, c'est tout à fait concret. Alors,
le plus simple, c'est de le vivre une fois.
Eh oui.
Et ouais. Et après, les gens me disent « Ah oui, effectivement, on ne s'attendait pas à ça ». Souvent, ouais. C'est le retour que j'ai. Les gens qui viennent une première fois, qui ne sont pas forcément adeptes des sorties nature ou qui sont adeptes des sorties nature, le vivent. Et après, j'ai ce retour-là en disant « Ah ouais, effectivement, on voit plein de choses. » Bon, voilà.
Tu parlais justement tout à l'heure du repérage parce que... Pour faire ces journées-là et pour montrer aux gens la nature et faire découvrir aussi la nature, il faut évidemment repérer les endroits. Tu les emmènes pas n'importe où. Comment t'as fait pour repérer déjà ces endroits? Est-ce que t'apprends toi aussi au fur et à mesure?
Ouais. Alors ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, je suis un enfant du pays. Donc, il y a des endroits que je connais bien et parce que j'y ai joué gamin. Voilà. Donc, il y a des endroits que j'ai dans la tête. Après, le repérage, à un moment donné, ça vient presque tout seul. On arrive à repérer les endroits qui potentiellement peuvent être sympas. Bon, on prend une carte, hein, tout bêtement. Et puis, là, il y a une forêt, là, il y a la Loire. Donc, on sait qu'on va trouver des choses. Et puis, bon, après, faut y aller. Faut aller sur le terrain. Et le plus dur, c'est de créer quelque chose. Par exemple, l'année dernière. Donc là, ça fait un an tout pile que mon entreprise est créée.
Là, le premier novembre 2016, c'est
ouais,
ça.
Alors ça, c'est l'association.
Ça, c'est l'association.
Et
okay.
Bon, j'en ai pas parlé d'auto-entreprise. Juste, je fais la parenthèse. Du coup, l'association fédère des guides indépendants.
Ok.
Comme moi, voilà. Et pour l'instant, on est trois sur plusieurs départements. Et l'objectif et l'ambition de l'association, enfin du réseau, c'est vraiment de mettre en réseau jusqu'à 10, 12, 14 guide potentiel sur l'ensemble du territoire du Val-de-Loire, en fait, de la source à l'estuaire. Voilà, okay. Juste ça, on s'est mis ça comme
objectif.
Comme ambition, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors,
très concret en tout cas.
Je ferme la parenthèse et je reviens sur ta question du repérage. Ouais, l'année dernière, quand j'ai créé mes sorties, on part de zéro, on se casse le nez une fois sur deux, quoi.
Ouais.
Tiens, il y a un site qui paraît bien.
Et qui ne l'est pas finalement.
Et puis bon, alors, voilà. Non, ça va pas parce que là c'est trop long, là finalement c'est entre guillemets pas très intéressant, donc voilà, on perd entre guillemets vite une journée, deux journées, trois journées, ça c'est clair, mais ça fait partie du truc. Après on sait que là faut pas y aller, que là-bas il y a un potentiel, voilà, ça fait partie du boulot, quoi.
Et comment tu le détermines justement, le potentiel? Est-ce que c'est en fonction de la faune que tu vas y retrouver, de la flore, du relief, de tout ça, ou
ouais.
Tout simplement un coin joli, visuellement attrayant?
Ouais, il y a tout ça.
Il y a tout ça.
Il y a tout ça. Alors, le joli, j'ai du mal parce que c'est complètement subjectif.
Oui,
finalement.
Effectivement.
On peut trouver un mur joli.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Ouais, c'est tout ça. Ce qui correspond à ce que moi j'essaye d'apporter dans mes sorties, c'est qu'on a une approche globale. Ça, c'est vrai que je veux le souligner. Dans l'association, là, les trois guides que nous sommes, on n'est pas expert ou spécialiste dans un domaine comme peuvent l'être certaines personnes. On n'est pas géologue, on n'est pas botaniste, on n'est pas ornithologue. Voilà. Mais on a des compétences dans tous ces domaines. À un moment donné, limitées, ça c'est sûr. Mais on essaye d'apporter tout ça, une espèce de de vue d'ensemble pour comprendre vraiment l'endroit où on est, le territoire dans lequel on se trouve, comment il vit, pourquoi il est comme ça. Donc ça passe par évidemment la compréhension du paysage, ça passe par la faune, la flore et l'activité humaine. Tout ça c'est lié en fait, c'est vraiment tout le temps lié. Et un site est entre guillemets retenu pour une sortie, bah, quand il y a tout ça. Quand le parcours est pas est sympa, voilà, c'est clair. Quand il y a des endroits jolis, parce qu'à un moment donné, on s'arrête,
eh oui.
On sort le café, on prend un petit gâteau. Ah ouais, c'est convivial.
On se détend, c'est la
détente.
Ouais,
c'est convivial. Oui. Bah ouais, c'est l'objectif. S'il y a deux mots que tu peux retenir, c'est convivial et pédagogique.
Ok.
Pas mal, c'est pas mal.
Bah oui, c'est très complet.
En tout cas, on
effectivement.
Essaye. On essaye.
Et alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de lieux où c'est top secret, par exemple, un lieu que t'aimes bien faire découvrir?
Ah, je sais pas hein, s'il y a des concurrents qui écoutent là.
Non, mais on part principe que la nature appartient à tout le monde,
ouais.
Évidemment.
Et heureusement.
Et
je vais pas rentrer dans ce débat, mais c'est pas vrai. Hein, ce que tu dis, la nature appartient pas à tout le monde. Y a des sites sur lesquels, par exemple, je peux pas aller.
D'accord.
Qui sont
des zones protégées ou...
Alors, qui sont des zones protégées, pourtant publiques. Public, donc financé avec nos impôts. Et c'est en train de bouger en ce moment. Je pourrais t'en reparler éventuellement dans quelques mois pour te dire ce qu'il en est, parce que c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse même en tant que citoyen, au-delà de l'aspect professionnel du truc. On est en train de se faire verrouiller ou réglementer l'accès à certains sites naturels publics, sous prétexte qu'on est indépendant et professionnel. Et donc qu'on gagne de l'argent sur des sorties publiques. Voilà. Donc je ferme la parenthèse.
Est-ce que du coup ça fait un peu peur le métier d'éco-guide ou en tout cas le réseau Val de Loire, ça fait pas peur en tout cas
Tu veux dire
Pour les autorités, tu viens de parler ferment les portes. Et...
Non, c'est pas personnel, c'est.
C'est juste qu'ils préfèrent garder un peu le monopole dessus.
Ouais, ils essaient. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, je veux pas trop en dire parce que c'est en cours. Donc j'attends là de savoir si je vais pouvoir travailler ou pas sur ces sites-là, clairement. Mais ça pose question, toi, d'un point de vue éthique et d'un point de vue sociétal, en général. C'est voilà, de quel droit on peut autoriser ou non l'accès à un endroit qui est public, quoi. Sous prétexte qu'il y a des professionnels et des non-professionnels qui travaillent sur cet endroit. Bon. Voilà, donc ça c'était la parenthèse. Alors, des sites, ouais, il y a des coins jolis en Touraine quand même. Il y a des coins vraiment sympas.
Ton préféré?
Moi j'aime bien, j'ai pas de préféré.
Pas de préféré.
Parce que ça va dépendre du moment.
D'accord.
Ouais, de l'état d'esprit dans lequel je suis. Là je parle quand je suis tout seul. Hein. Après, quand t'emmènes des gens, c'est différent. C'est vraiment différent. Mais j'aime bien la vallée de la Vienne. La vallée de la Vienne avec, je sais pas si tu connais, des petits villages comme Crissé-sur-Mance.
Non, c'est sympa. Hein. Je connais pas encore assez la région.
Faudra venir.
C'est un tort.
Non, c'est pas un tort, mais c'est des endroits, il y a des endroits qui sont vraiment sympas. Vers Loche aussi, c'est sympa. Loche, la forêt de Loche. Puis après, il y a des endroits. Tu vas te promener à la Chartreuse du Ligier, qui est une ancienne chartreuse du 12e ou du 13e, qui est en pleine forêt. Qui est en fond de vallon, voilà, tu sors de la forêt, t'arrives dans ce site là, bah il y a un truc qui se passe normalement quoi, parce que ici il y a une énergie, mais encore une fois ça va dépendre du moment, de l'état d'esprit dans lequel tu es,
si on est seul,
si t'as des problèmes, tout de suite ça va être, tu vas être moins disponible quoi.
Ouais.
Et puis, mais le plaisir après c'est d'emmener des gens. Et ça c'est le vrai plaisir de d'emmener un groupe. Et de leur faire découvrir ça et de leur donner ça. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire quand je construis tout ça. Si je le faisais pour moi, je le ferais pour moi. Voilà, je le fais le week-end, ça regarde que moi. Mais là, il y a une démarche et c'est vrai que moi, je prends du plaisir dans toute cette transmission. Il y a une discussion qui s'installe après avec le groupe. Je rencontre des gens forcément passionnants. C'est pas tout le temps le cas, évidemment. Mais souvent, il y a quand même un échange qui se met en place, et les gens apportent des choses. Tu vois, moi j'amène des choses, mais les gens apportent des choses avec leurs connaissances, leur façon de faire, leur façon de penser. Des fois, il y a des réflexions auxquelles, bon, voilà, j'ai même pas pensé. Et ah, ça me fait tilt parce que je me dis, ah ouais, c'est intéressant la vision de cet endroit, de cette personne à ce moment-là. Tiens. Ouais.
Donc, qui moi, diffère complètement de, ouais, de la tienne.
Voilà, et puis du coup, ça me donne des billes pour travailler derrière. Je me dis, tiens, là, il y a une piste que j'ai pas explorée, par exemple, donc je vais y aller. Voilà. Donc ça, c'est génial, quoi. Parce que c'est sans fin, au fait.
Ouais. T'es proposé tout à l'heure hors antenne un petit quiz sur ce qu'était justement l'écotourisme.
Mais j'ai pas eu les questions. Hein.
Ah non, t'as pas eu les questions. Ah jamais, jamais. Je ne donne jamais les questions avant. Je mets le petit jingle et on fait ce petit quiz. C'est parti. Première question. Est-ce que tu es chaud?
Vas-y.
Est-ce que c'est bon? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que tu... On l'a un peu évoqué à demi-mot tout à l'heure. Tu peux me parler de l'origine du mot écotourisme? Tu sais d'où vient ce mot?
Alors le mot, je crois que ça vient de l'espagnol. Écotourismo. Ou alors peut-être pas de l'espagnol, là, je vois ta tête là.
Si, si, j'acquiesce en partie parce que c'est plutôt vrai.
C'est dans les années 50 ou 60 qu'on retrouve ça dans la littérature. Ouais, là.
Alors la première, t'es pas loin, t'es vraiment pas loin. La première apparition de ce mot daterait de 83, un petit peu plus tard. Ouais. Et elle viendrait d'un architecte mexicain, donc pour le coup hispanique qui s'appelle Héctor Ceballos Lascurian, ce fameux architecte mexicain qui a défini le premier le mot écotourisme. Effectivement, terme hispanique, je ne le prononcerai pas parce que je n'ai pas fait espagnol, mais voilà, en tout cas, t'avais à moitié juste.
J'avais le mot.
T'avais le mot.
Écotourisme, c'est pas dur.
Voilà. Deuxième question. Est-ce que tu peux me dire combien en pourcentage la France offre comment être plus précis? Dans son offre touristique globale,
ouais,
combien représente la part de l'écotourisme en France? Voilà, c'est plus clair comme ça. Hein.
Ça, c'est violent comme question.
En pourcent.
En pourcentage, ouais.
En pourcentage.
Donc, en termes de produits proposés, c'est ça?
Voilà, en termes de prestations, produits, tout ça, en pourcentage, sur 100% de tourisme en France, combien est dédié à l'écotourisme?
Donc à l'écotourisme, on parle pas de tourisme vert, non, solidaire, de nature, de...
Écotourisme.
Hein.
Écotourisme.
Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est une bonne question.
En sachant, je vais te donner une
piste. Je peux te faire un ordre de grandeur?
Ah bah oui, évidemment.
Bon, moins de 1%.
Ah, t'es pas loin. Non, c'est moins de 2%.
Ouais, ouais.
Mais c'est encore très faible. Ouais, Par contre, depuis 2010, ça éclos, c'est en plein boom, 20% par année en termes de croissance.
Bah c'est... ouais, quand on part de zéro, c'est facile.
Mais c'est vrai qu'on peut que monter, effectivement, ça c'est pas faux.
Ok, moins de 2%.
Troisième question. À ton avis, sur 100 Français, combien estiment difficile le fait de trouver des informations sur les voyages responsables? Wow. Il y a 100 Français, il y en a tant qui se disent « Ouais, mais c'est quand même compliqué
t'as
de trouver des
où tes questions ?»
Ah, loin, loin. Je me suis creusé la tête. Hein.
Alors, sur 100 Français... Combien...
Parce que ça, c'est un vrai problème.
C'est intéressant,
aussi.
C'est très intéressant.
Ouais. Peut-être que les gens sont aussi attirés et sont... sont au courant de ces enjeux de société, notamment par rapport à l'écologie, mais le fait qu'il manque d'informations, ça peut les rebuter à ce genre de choses.
Ok. Alors, je pense que l'information est quand même de plus en plus accessible. Ne serait-ce qu'il y a un effet de mode, hein, c'est clair. Hein. Pour te donner un chiffre, c'est compliqué, parce que là, je vais vraiment y aller à la louche, mais je pense entre peut-être aux alentours de 80%, 70-80% estiment que c'est compliqué d'avoir des informations.
Ah, t'es pas loin à chaque fois, c'est 64%, on n'est pas loin des 70-80%.
Ah, quand même.
Mais quand même, hein, ça fait plus d'un Français sur deux qui estime évidemment et qui considère que c'est difficile de trouver des informations pour organiser ou pour faire un voyage éco-responsable.
Ouais,
Donc c'est aussi un problème pour le coup. Pour ces gens en tout cas qui aimeraient partir et faire de l'écotourisme. Dernière question, est-ce que tu sais sur 100 Français combien souhaiteraient partir en voyage éco-responsable? Ah, je t'avais dit c'est un quiz chiffre aujourd'hui.
Hors de France?
Non.
Peu importe.
Combien de Français sur 10 veulent partir en voyage éco-responsable?
Allez, je me lance 8.
7.
C'est pas mal, dis donc.
En pourcentage ?
7 sur 10.
Ah oui, voilà, sur 10, on est d'accord. C'est 7 sur 10, effectivement, donc 70%.
C'est énorme.
Ouais. Ouais. C'est plutôt énorme. Alors, est-ce qu'ils le font après c'est une autre question, évidemment.
Bah, ils peuvent aller sur valdeloire-ecotourisme.fr et c'est facile après.
Alors, justement, tu fais bien de parler de ça parce
on est là pour ça. Hein.
Bah oui, et on va parler de l'agenda, en tout cas de ce que vous proposez pour l'année 2018. J'ai réussi à le récupérer là, sous les yeux, l'agenda des sorties 2018. Tu peux nous parler un peu de ce qui va se passer là pour l'année et pour les mois qui viennent.
Ouais, alors il va se passer plein de choses. Alors je vais parler de ce qui va se passer en Touraine, hein, en tout cas, parce que bon, les autres collègues sont en train de mettre ça en place. Donc j'ai pas leur planning encore en tête, quoi. Mais tout est sur le site. De toute façon, il y a la rubrique agenda sur le site et tout est mis à jour régulièrement et tous les jours. Ça,
le site, on va le dire tout de suite d'ailleurs, c'est www.valdeloire-ecotourisme.fr.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, sur Google, on tombe sur nous assez vite, quoi. Donc ça, c'est bien. Et donc sur ce site, il y a un onglet qui s'appelle agenda, où là, il y a toutes les prestations proposées par les éco-guides sur leur territoire. Donc concrètement, moi, je vais proposer des demi-journées, des journées plus rarement, mais c'est surtout de la demi-journée, parce que c'est plus accessible, voilà, à un endroit. Donc c'est en forêt de Loche, en forêt de Chinon, sur les bords de Loire, ou à Caen de Saint-Martin par exemple pour visiter le village. Je vais jusqu'à l'abbaye de Fontevraud où je peux faire visiter l'abbaye en privé. Ça c'est sympa. Voilà, il y a plein de rendez-vous comme ça. Là, je les ai pas tous dans la tête parce qu'il y en a 20 ou 25 pour cette année en tout cas. Et puis ça va bouger encore en juillet-août.
Et ça commence en mars, hein, le 10 mars, le premier.
Ouais, exactement. Alors, merci, ça fait une belle transition, c'est génial. Alors, je propose aussi ce que j'appelle des ateliers, en fait, des ateliers découvertes, où là, c'est une formule sur une journée entière, où c'est un peu plus technique, on va un peu plus loin. Mais ça s'adresse à des gens qui partent de zéro. Voilà, justement, c'est pour rendre tout ça accessible. Et on fait une matinée en salle. Voilà, donc sur une thématique, c'est facile. C'est soit la faune sauvage, soit la flore sauvage. Voilà, c'est pas très compliqué. Et donc là, le 10 mars, c'est...
Faune sauvage.
Ça, ouais. Donc pendant la matinée, on est dans une salle avec tout le confort, un rétroprojecteur, du café, tout ce qu'il faut, on est bien installé. Et on fait un petit PowerPoint sur les animaux, orienté bien évidemment sur plutôt les mammifères de forêt, de nos forêts, de chez nous. Et voilà, et là j'explique un peu l'histoire de ces animaux, qui sont-ils, voilà un peu comment ça fonctionne, l'écosystème aussi, forêt, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, d'où ça vient, voilà, donc on voit des notions un petit peu théoriques. Et ensuite l'après-midi, on part sur le terrain, en forêt évidemment,
pour essayer
de mettre en pratique ce qu'on a vu le matin. Donc évidemment, quand on parle de faune sauvage, ça va pas être on va voir plein d'animaux en forêt, non, ça marche pas. Par contre, on va s'intéresser aux traces et indices, c'est ça qui marche. Donc voilà, moi je vais vous apprendre à différencier une empreinte de chevreuil, une empreinte de cerf, des coulées de passage d'animaux, voilà, on essaie d'apprendre tout ça pour comprendre vraiment les animaux qu'on a chez nous, de nos forêts. Voilà. Donc ça dure une journée, sachant que le midi, le pique-nique est offert par mes soins, avec des produits locaux. Voilà, ça c'est un truc qui me tient à cœur.
Ça reste dans le pilier que tu as décrit tout à l'heure, le terroir.
Ah ouais, évidemment. Ouais. 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 Sinon c'est pas logique. Si je faisais un truc...
Ça rentre dans l'offre globale.
Ah ouais, si je leur fais un casse-croûte Leclerc, même moi, ça va m'embêter, quoi. Ça va être compliqué. Donc là, j'essaye de faire un... Ouais, c'est convivial, quoi. Voilà, c'est convivial. Donc le matin, en salle, on apprend un peu de théorie, on va manger en forêt, et l'après-midi, on met en pratique, on vit les choses, quoi. On vit les choses. Donc là, c'est un peu technique, mais c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est... Quand on connaît rien, on peut venir. C'est fait pour. C'est vraiment fait pour ça. Donc faune et puis flore sauvage, là on va être orienté sur la botanique, essayer de comprendre comment fonctionne une plante, etc. Là c'est mai-juin, il y a deux dates, une date en mai, une date en juin. Voilà, donc ça c'est nouveau cette année, je teste, Je vais voir si les gens, ça les intéresse. Et puis, si ça marche, ben, je reproposerai d'autres à d'autres moments. Voilà, on verra. Je teste ça cette année. Donc, ça part comme ça.
Et vous faites aussi... alors, du coup, c'est dans la foulée de l'atelier Faune Sauvage. Visite de l'abbaye de Fontevraud.
Ouais,
Fontevraud.
Ouais,
pardon pour la prononciation.
Non, c'est pas grave. Hein.
Ça rentre aussi dans le pilier culturel, finalement, ouais, que tu as décrit tout à l'heure.
C'est ça. Tout à l'heure, tu parlais des sites qui me font vibrer.
C'en est un.
Ça, c'est un ressenti personnel. Voilà, je peux pas expliquer. J'invite tout le monde à y aller, parce que vraiment, c'est un endroit qui est sympa. On peut y aller tout seul, hein, on n'a pas besoin de prendre un guide. Bon, c'est mieux de prendre. Ils ont des guides locaux sur place qui font une visite classique d'une heure, comme ça on a un peu l'histoire. Moi, je propose déjà une visite en petit groupe et on prend le temps, on va partout. Ça dure 2h30, 3h, 3h30. Voilà, c'est jamais vraiment fiable à 100% au niveau de la durée, c'est en fonction des gens. Et on va partout et on prend le temps de découvrir ce monument et on va s'intéresser à l'histoire. Évidemment, mais aussi ce qui me semble indispensable, le lien entre cet endroit et le Val-de-Loire. Mmh. Et il y a des liens. Et l'influence que cet endroit a pu avoir sur le territoire. Voilà, quand vous avez 800 moniales, du coup, parce que c'était des femmes, hein, en tout cas, qui étaient dans l'abbaye principale, 800 moniales qui étaient là, ça fait du monde. Ça fait du monde, donc ça veut dire qu'il faut les nourrir, ça veut dire qu'il faut les soigner, ça veut dire... Ouais. Donc tout ça, gravité, c'était... je sais pas, c'est incroyable, là on y va, il n'y a plus rien, c'est bon, c'est joli, mais j'essaye de donner ça, de remettre un peu dans le contexte de l'époque, de s'imaginer comment ça pouvait être, on peut qu'essayer, on peut qu'imaginer.
Donc c'est toi qui dispenses les cours d'histoire par
rapport. Non, c'est pas des cours d'histoire. Oh là là, loin de là.
En tout cas, par les précisions historiques.
Et les guides de Fontevraud sont très très bons et je suis pas du tout à leur niveau sur leur champ de compétences. Voilà. Par contre, moi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'approche globale qui m'intéresse. Le site est là, pourquoi ? La pierre est blanche, pourquoi ? Et les carrières sont pas loin. C'est toujours lié de toute façon. Tout c'est toujours lié.
Bon, en tout cas, évidemment, tu proposes et le réseau propose plein d'autres événements. On n'a malheureusement pas le temps de trop s'y attarder. Hein, le temps tourne.
Dommage.
Mais en tout cas, on va rappeler quand même une dernière fois le site internet où les auditeurs peuvent retrouver finalement toutes ces informations.
Je peux juste faire une parenthèse sur deux événements là qui sont en avril et je te les donne. Regarde.
Allez.
J'organise deux week-ends au domaine des Tomos. Donc qui est à un domaine spa après Amboise où là je me suis mis en partenariat avec pour le week-end du 7-8 une professeure de danse, de salon et de fitness où on va faire un mix au fait pendant le week-end rando nature, découverte de la danse avec cette professeure et spa, voilà, tout ça dans un domaine qui est vraiment sympa, c'est un ancien château là. C'est vraiment chouette, quoi. Donc ça, c'est en avril que ça se passe et il n'y a qu'une date cette année. Et j'ai déjà de la demande. Donc ça va aller très très vite. Donc s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent aller voir sur le site, il y a tous les détails. Et le week-end du 14-15, c'est à peu près la même chose, mais on est sur le yoga, en fait. Mais voilà, donc tout ça, c'est lié, évidemment. Mais ça va être sympa, hein, franchement.
Bon, en tout cas, ça c'est, c'est pour ce qui est d'avril. Et en tout cas, pour le reste, si vous êtes passionné de nature et que vous voulez partir à la découverte de la faune, de la flore et de la culture tourangelle et du Val-de-Loire, vous pouvez évidemment aller plutôt sur le site www.valdeloire-écotourisme.fr.
Ouais. J'ai deux minutes.
Allez, deux minutes
Allez.
Pour terminer.
Donc les gens peuvent adhérer à l'association. Ça leur fait des tarifs préférentiels sur nos sorties. Voilà, ça c'est dit. Et je t'ai parlé d'un scoop tout à l'heure quand même.
Ah oui, scoop, c'est vrai. J'ai failli l'oublier. Alors quel est ce scoop ?
On lance sur notre page Facebook le 1er février, donc c'est jeudi, un concours photo où il y a le règlement sur Facebook, faudra les lire, c'est assez simple. On a une thématique qui s'appelle la nature en hiver et les gens postent leurs photos. Et la photo qui a le plus de likes ou de j'aime, pour parler français, gagne une sortie pour une personne avec nous, dans l'agenda justement, donc au choix. Voilà, donc il y a une sortie à gagner pour celui qui fait un peu de photos ou même sans faire, sans être forcément professionnel. Mais voilà, donc ça, on lance ça là au mois de février et il y en aura certainement à chaque saison.